Les Années-Lumière, édition du 11 octobre 2009. C'est la semaine, la belle semaine des prix Nobel de science. On vous explique pourquoi ils et elles l'ont eu cette année. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, les Nobel, c'est en deuxième heure, mais on va commencer par la première heure. C'est une bonne idée, ça prend pas un Nobel pour dire ça, faut dire. Et avec vous, on va commencer donc Sophie André Blondin. Et vous êtes levé tôt, vendredi, pour regarder la Lune, à quelle heure?
Oui, très très tôt, oui. Mais il m'aurait fallu des yeux bioniques pour voir les sondes de la mission L-Cross s'écraser dans un cratère. Mais vous n'avez qu'à tendre l'oreille pour comprendre ce qu'on cherche avec une pareille mission.
Chantal Srivastava, si certains doutent de l'importance du réchauffement climatique, eh bien, il y en a d'autres qui pensent que ce pourrait être pire que prévu.
Et si la hausse moyenne des températures sur Terre atteignait d'ici la fin du siècle non pas 2, mais plutôt 4 degrés Celsius, la question a été posée à Oxford et la réponse est inquiétante.
Et ça fait froid dans le dos. Il y aura ensuite le courrier des années-lumière, une question sur le cerveau et la musique. Puis la chronique cette semaine, la docteure Marie-Dominique Beaulieu revient sur la crise du Clostridium difficiles et note que si crise il y a eu, c'était aussi et beaucoup parce que nouvelle souche plus virulente, il y avait. Deuxième heure, on va la commencer avec notre spécial Nobel. Je vais vous parler pour ma part des Nobel de médecine qui ont été attribués pour des découvertes sur le bout des chromosomes, les télomères. Et après ça, nous allons passer à la physique, Sophie André.
Deux découvertes qui ont vraiment changé vos vies, la fibre optique et les capteurs CCD pour l'imagerie numérique.
Hugues de Roussan, vous allez faire, vous, dans la chimie.
Oui, le prix Nobel de chimie a été décerné à deux chercheurs américains et une israélienne pour leurs travaux sur le ribosome. Qu'est-ce que le ribosome? Eh bien, c'est l'usine qui fabrique les protéines à l'intérieur des cellules.
Alors, on aura ensuite le petit journal de la science. Pour terminer, l'auteur de la semaine, Chantal, c'est vous qui allez le recevoir.
Il s'appelle Jean-Pierre Sylvestre. Il viendra nous parler du grand dauphin et de ses cousins. Il vient d'écrire une monographie sur le sujet.
Mais pour commencer, comme dirait Tintin, ou à peu près, là, on a crashé sur la Lune.
Stand by for shipping spacecraft impact.
We confirm a thermal signature of the crater. Over.
The ground stations at Goldstone just reported a termination of
telemetry. Last track at 11:35.054 seconds.
The shepherding spacecraft has hit the surface of the moon, and this marks the end of the L-Cross flight mission.
Et oui, ça se passait ça vendredi matin de très bonne heure à notre heure. La sonde Centaure et son vaisseau berger L-Cross s'écrasaient donc sur la surface de la Lune, Sophie André, au fond d'un cratère ombragé du pôle. Cette mission, donc la mission L-Cross, vise à détecter la présence de glace au fond d'un cratère lunaire. Est-ce qu'on peut dire mission accomplie?
On peut dire que la mission se poursuit, Yannick. C'était le début, finalement, l'impact. Les sondes se sont écrasées telles que prévues, mais les données, elles continuent d'affluer depuis tous les instruments qui ont observé ces impacts, les conséquences aussi des impacts. Des instruments variés comme les télescopes sur Terre, des télescopes dans l'espace, des satellites autour de la Lune. Tout le monde regardait la surface de la Lune. Voici le déroulement de la partie impact de la mission qui s'est déroulée vendredi matin à notre heure ici. Il y a d'abord eu une fusée de 2 tonnes, Centaure, qui a percuté le fond d'un cratère polaire sur la Lune. L'impact a soulevé un nuage de poussière, de débris, ce qu'on appelle un panache d'agrégats. Et c'est ce panache qui pourrait révéler la présence de glace.
De la recherche, effectivement, il y a beaucoup de panaches.
C'est alors que l'autre satellite, L-Cross, le petit satellite berger, il est passé dans ce panache, justement. Il n'a pas eu peur du panache. Ses instruments d'imagerie et de spectroscopie servent à caractériser les agrégats du panache et ensuite le petit satellite Berger Cross est allé s'écraser plus loin. Alors, outre les images qui ont été transmises depuis l'espace à ce moment-là, les télescopes terrestres ont été mis à contribution. Au sommet du Mauna Kea à Hawaï, 5 des grands télescopes ont uni leurs efforts, le Keck, le télescope infrarouge de la NASA, le télescope Canada-France-Hawaï, le Subaru et l'observatoire Gemini Nord. Et c'est là que l'astronome Marie Lemoine Busserolle a passé toute la nuit à scruter dans l'infrarouge un cratère sur la Lune.
Le but donc de nos observations ici à Hawaï était d'étudier les débris soulevés qui seraient soulevés par l'impact de la sonde et de la fusée.
Évidemment, ça se passe au pôle de la Lune, donc vous pouvez les voir avec les télescopes, mais vous avez vu ça de la tranche.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire ce qu'on voyait en fait quand c'était une partie qui était éclairée du cratère. C'est-à-dire en fonction de l'inclinaison de la Lune, parce que nous avons donc attendu ce qui était bien à voir, c'est que au moment de l'impact, qui était 1h30 du matin, la Lune était située d'une certaine façon à l'horizon, où on voyait une partie du cratère était éclairée, une autre partie était à l'ombre. On a pu observer, du moins, on n'a pas vu directement, puisque nos observations étaient dans l'infrarouge. On a pris des données de l'imagerie et de la spectroscopie dans les différentes bandes de l'infrarouge proche à l'infrarouge lointain. Et le but donc de ce qu'on a fait était de pouvoir détecter si dans les débris qui étaient soulevés, s'il y avait de la glace, s'il y avait des hydrocarbures et d'autres composés organiques. Et si aussi, dans la partie qui était, si vous voulez, illuminée par le soleil, on pense que s'il y avait de la glace, donc l'eau s'est vaporisée et on pouvait dans ce cas-là détecter la signature, si vous voulez, spectroscopique de la vapeur d'eau.
Est-ce que tout s'est passé comme prévu?
Dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que nous avons observé donc au bon endroit, c'est-à-dire que tous les observatoires sur le Mauna Kea se sont trouvés au bon endroit. Nous avons observé le bon cratère au bon moment. Et pour le moment, ce qu'il faut, c'est réduire les données, les analyser et voir si effectivement on trouve quelque chose ou pas. C'est pas mal de boulot pour le moment.
Est-ce que c'est rare que ces 5 télescopes au sommet du Mauna Kea où vous êtes en ce moment collaborent ensemble comme ça?
Je veux dire, il faut quand même un événement. Il faut quand même un événement comme ça. Ça fait plus d'un mois que tous ces télescopes travaillent ensemble. On avait une salle de contrôle ici où tout le monde, il y avait donc l'équipe de la NASA et un représentant de chacun des observatoires. Et à ce moment, on disait, bon, Subaru, est-ce que tu es au bon endroit? Gemini est là, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, tout le monde devait travailler ensemble et c'est pas évident. Je crois que les scientifiques de la NASA ont pas mal de données à mettre tout ensemble pour essayer de voir s'il y a une cohérence de ce que chacun des observatoires ou sondes ou satellites auront détecté. Donc, on a fait du bon boulot, je pense, un peu tout le monde ici, en tout cas sur le Mauna Kea. C'était une expérience à vivre.
La suite donc de l'histoire de l'eau sur la Lune un peu plus tard. Bonne nuit à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Alors, c'était donc l'astronome Marie Lemoine Busserolle à l'observatoire Gemini Nord à Hawaï. Alors donc, on cherche toujours de l'eau, hein? toujours de l'eau, Sophie-André, sur la Lune.
Toujours et encore de l'eau. Et dans le cas de l'impact de vendredi matin qui s'est fait dans le fond d'un cratère que le soleil ne réchauffe jamais, évidemment, on comprend qu'il s'agit de glace, mais oui. En effet, on est toujours sur cette fameuse piste de l'eau. Pourquoi? Bernard Foin est chef scientifique au département des sciences de l'Agence spatiale européenne. C'est le père de la mission SMART 1 qui a fait percuter, eux aussi, une sonde sur la Lune en 2006. Et les données de SMART 1 qui ont été recueillies, elles ont servi à préparer, entre autres, la mission L-CROSS, à choisir, par exemple, le fameux cratère d'impact. Bernard Foin.
Nous pensons que dans ces régions très froides, il y a des couches de glace qui, chaque fois qu'une comète ou un objet riche en eau percute la Lune, à n'importe quel endroit de la Lune, il y a une sorte d'atmosphère transitoire qui erre jusqu'à ce qu'elle soit piégée dans la région la plus froide de la Lune. Comme dans votre réfrigérateur, la glace se forme mieux dans l'endroit le plus froid. Aussi, à cet endroit, à des températures de moins 220 degrés Celsius, nous attendons d'avoir des dépôts de glace qui sont mélangés avec des dépôts de poussière.
Et l'eau sur la Lune, c'est vraiment le cœur de cette mission-là. Pourquoi est-ce qu'on trouve important, pourquoi est-ce que la science trouve important de trouver de l'eau sur la Lune?
Alors évidemment, l'autre lune, c'est important au niveau de la science, comme vous l'avez dit, mais aussi au niveau de l'exploration future. Au niveau de la science, c'est important de savoir comment est transférée l'eau depuis, par exemple, les objets cométaires, où il y a aussi des astéroïdes qui contiennent des glaces mélangées à leurs minéraux. Comment cette eau a pu être délivrée aux planètes internes, en particulier la Terre, Vénus et Mars. On pense que les océans de la Terre sont peut-être de l'ordre de 30% ont été contribués par de l'eau externe apportée par les comètes et une autre partie a été dégazée par les roches à l'intérieur de la Terre. Dans le cas de la Lune, la Lune est vraiment très sèche et on voudrait savoir combien il y a de ces glaces d'eau qui ont été apportées. Et aussi, nous pensons que à chaque fois qu'une comète percute la Lune, cela crée une petite couche qui est ensuite recouverte de poussière et qui peut ensuite être analysée comme archive du bombardement, même du système Terre-Lune, par les objets riches en eau. Alors c'est intéressant aussi pour connaître la diversité des sources possibles d'eau dans le système solaire, mais aussi ça peut être intéressant pour l'exploration future. En particulier, certaines de ces réserves d'eau, et en particulier ce qui a été détecté récemment, c'est une sorte de film d'eau qui est présent à la surface des régions polaires et qui migre au fur et à mesure de la journée lunaire. Nous pourrions exploiter ceci pour aider au début au développement d'un poste avancé humain ou d'une base lunaire internationale où nous pourrions donc emprunter pendant quelques temps les ressources en eau, en addition des ressources minérales qui peuvent être extraites du sol lunaire.
C'était le responsable scientifique de la mission SMART 1, Bernard Foin, qui mentionne donc une découverte toute récente, hein, Sophie André, au sujet de la présence d'eau qui migre là au fil de la journée sur la Lune, c'est ça?
L'eau qui se promène comme ça. Ouais. Effectivement, à la fin du mois de septembre, une équipe a publié dans la revue Science cette étonnante découverte, une découverte qu'on n'aurait même pas imaginée il y a quelques mois à peine. Il y aurait de l'eau partout sur la Lune, et pas seulement au fond des cratères polaires, même à l'équateur. Mais Olivier Groussin, qui est chercheur au laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui est co-auteur d'un de ses articles, il nous met en garde. La surface de la Lune n'est peut-être pas si sèche que ça, mais ne rêvez surtout pas d'y faire trempette.
Il ne faut pas du tout imaginer qu'en surface de la Lune, on va trouver donc des lacs, des rivières ou même des mares d'eau. Il y a très peu d'eau qui a été détectée et en moyenne, ça correspond à peu près à un demi-litre d'eau étalée sur la surface d'un terrain de football. Donc si on marchait aujourd'hui sur la Lune, on ne verrait pas cette eau en surface.
Et on aurait un environnement encore très très sec, encore plus sec que les environnements les plus secs sur Terre.
Voilà, exactement. Donc il faut bien comprendre que l'eau qu'on a trouvée, donc c'est environ 0,5% donc de la masse de la surface. Comparé à certains déserts, donc les déserts les plus secs sur Terre ont des atmosphères à environ 10% d'eau. Donc on est encore des ordres de grandeur en dessous de ce qu'on peut trouver sur Terre dans les endroits les plus arides.
Et cette eau-là, elle est dans la matière, dans la poussière. Comment demeure-t-elle là?
Alors c'est de l'eau qui est sous forme adsorbée, avec un D comme Daniel. Et cette eau, ça veut dire qu'en fait, elle est accrochée donc aux minéraux lunaires en surface. Donc c'est vraiment un phénomène de surface. Il faut imaginer donc les molécules d'eau, H2O, qui sont donc en contact avec les minéraux lunaires. Mais elle n'est pas à l'intérieur des minéraux lunaires, elle est vraiment en surface, attachée à ces minéraux.
Alors elle colle à ces minéraux et elle vient d'où cette eau?
Alors l'idée actuelle, c'est donc à prendre évidemment avec précaution, mais notre interprétation, c'est que l'eau, elle serait formée aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir avec l'eau qui daterait donc sur de la formation de la Lune, mais c'est de l'eau qui serait formée aujourd'hui par interaction donc entre le vent solaire, et notamment les ions hydrogène H+, du vent solaire, et les minéraux lunaires qui sont riches en oxygène. Donc avec les ions hydrogène du vent solaire et donc les atomes oxygène des minéraux lunaires, on arrive à former les molécules H2O d'eau.
Alors, cette eau, elle se forme constamment à la surface de la Lune, mais elle ne s'accumule pas nécessairement.
Oui, effectivement. Donc, l'eau qu'on a observée, c'est de l'eau de surface, qui est effectivement formée donc aujourd'hui à la surface de la Lune de façon continue. Mais cette eau ne reste pas en surface, et lorsqu'il est midi sur la Lune, donc au zénith, quand le Soleil est au zénith, l'eau est en fait détachée des minéraux lunaires et elle quitte la surface. Donc, elle n'est présente sur la Lune que lorsque la température est suffisamment basse, c'est-à-dire soit en allant vers les pôles, ou soit le matin, ou au crépuscule le soir.
On a entendu, on a eu des échos depuis plusieurs années du fait que les scientifiques ont réussi à détecter la présence d'eau très très loin dans le système solaire. Comment est-ce qu'on a pu ne pas détecter la présence d'eau si près de nous sur la Lune?
Alors c'est effectivement une bonne question puisque la Lune est donc le plus proche compagnon de la Terre et extrêmement observée depuis, je dirais même l'Antiquité, donc ça fait extrêmement longtemps qu'on connaît la Lune. Mais on n'a pas fait cette découverte tout d'abord parce que sur Terre on ne peut pas utiliser les mêmes techniques d'observation à cause de l'atmosphère qui est elle-même remplie d'eau. Et donc en fait l'atmosphère est opaque aux longueurs d'onde qui nous intéressent pour observer donc les corps tels que la Lune.
Parce qu'on est nous-mêmes dans l'eau donc on ne voit pas l'eau, c'est un peu ça.
Voilà, c'est ça. Donc on est nous-mêmes dans un bain d'eau, donc on n'arrive pas à voir l'eau au-delà de l'atmosphère terrestre, effectivement. Et l'autre argument, c'est que donc la plupart des télescopes qui sont dans l'espace, certains en tout cas ne peuvent pas observer la Lune, puisqu'elle est beaucoup trop brillante par rapport à leurs instruments. Donc ils risqueraient d'endommager les instruments en observant la Lune. Et c'est pour ça qu'en fait, par le passé, donc on n'avait pas réussi à trouver cette eau sur la Lune, même si finalement, a posteriori, on se rend compte en regardant donc aujourd'hui des données qui datent donc de 2007, donc d'avant la découverte, et même donc plus vieilles, à la fin des années 90 avec la sonde Huygens-Cassini, on trouve finalement des traces d'eau dans ces données-là, qui à l'époque avaient un peu donc échappé aux scientifiques qui avaient effectué ces observations.
Olivier Groussin est chercheur au laboratoire d'astrophysique de Marseille, dans le sud de la France.
Alors, morale des derniers développements sur l'eau lunaire, il y aurait de l'eau, un tout petit peu d'eau, partout en surface. Quant à savoir s'il y a vraiment de la glace au fond des cratères ombragés sur les pôles, ça c'est une histoire qui est encore en train de s'écrire.
Évidemment. Je vous remercie beaucoup, Sophie André.
Au revoir.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Et vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Alors, au cours des 100 dernières années, la température moyenne à la surface du globe s'est élevée de presque 0,8 degrés Celsius. Une hausse que les scientifiques du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, associent à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Au dernier sommet du G8, on s'en rappelle, en Italie, les grandes ce monde ont promis d'agir pour limiter la hausse des températures à 2 degrés. Mais à 2 mois de la grande rencontre de Copenhague sur le climat, il y a des scientifiques qui se demandent si la température moyenne ne pourrait pas plutôt monter, écoutez bien, de 4 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle. Et ça, c'est une sacrée question, Chantal.
Et la réponse n'est pas nécessairement réjouissante. Hein? Alors, cette question, elle a été posée, Yannick, lors d'un congrès qui avait lieu à Oxford, en Grande-Bretagne. C'est un congrès, donc, qui s'appelait 4 Degrees and Beyond, qui avait lieu la semaine dernière. Et de l'aveu même des organisateurs du colloque, ce scénario à 4 degrés semblait assez improbable au moment où ils ont commencé à planifier leur événement il y a 18 mois. Sauf qu'aujourd'hui, comme les émissions globales de gaz à effet de serre continuent à augmenter, il en va tout autrement. À un point tel que des experts du Centre Hadley de recherche sur les changements climatiques du Met Office britannique soutiennent que si on ne fait rien, on pourrait bien voir la température moyenne augmenter sur Terre de 4 degrés d'ici la fin du siècle. Alors, pour en savoir davantage sur ces résultats, j'ai joint Hazel Thornton, elle est chercheure senior en changement climatique au Met Office Hadley Centre en Grande-Bretagne. Elle explique tout d'abord en quoi cette étude constitue une première.
Pour la première fois, on a regardé la possibilité d'avoir un réchauffement climatique de plus de 4 degrés centigrades avant la fin du siècle. Et ce travail diffère des études précédentes en ce sens que nous nous sommes concentrés sur les scénarios d'émissions les plus élevés. Et on avait utilisé de nombreux modèles climatiques, d'une part les modèles de Hadley Center, mais aussi les modèles d'autres centres de recherche. Et nous avons examiné quand les différents modèles dépassent un réchauffement de 4 degrés pour différents scénarios.
Pourquoi opter pour le scénario du pire?
Parce qu'il y a beaucoup de sous pour les autres scénarios de 2 degrés, mais on veut savoir si on n'arrive pas à avoir un accord global sur les émissions, qu'est-ce qu'on peut avoir dans le futur si on ne limite pas les émissions.
Alors, est-ce qu'on a une idée pour arriver à un scénario du pire, là, à 4 degrés de réchauffement des températures moyennes d'ici la fin du siècle? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'émissions, là, ou qu'est-ce qu'il faut ne pas faire en termes de réduction des émissions?
Voilà, donc les résultats de cette étude, on a montré que la meilleure estimation de ce date de 4 degrés est vers les années 2070 et 2080. Mais si l'atmosphère est particulièrement sensible à une augmentation de gaz à effet de serre, le 4 degrés pourrait être dépassé en les années 2060. Mais on a fait les études pour voir si le pic de notre émission arrive dans les prochaines décennies, suivi par une réduction rapide des émissions. Nous pourrions limiter l'augmentation de température à 2 degrés.
Ce que j'entends, c'est que c'est une façon, Mme Thornton, de mettre un peu de pression sur les politiciens aussi pour qu'ils adoptent des scénarios sérieux, réalistes et vraisemblables de réduction des émissions très, très bientôt.
Voilà, c'est ça. Si on fait un grand effort maintenant, bientôt, on peut réduire l'augmentation de température jusqu'à 2 degrés. Donc, ce travail de 4 degrés a montré quel type d'environnement planétaire nous pouvons nous atteindre si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas fortement réduites.
C'était Hazel Thornton, qui est chercheur senior en changement climatique au Centre Hadley de recherche sur le climat. Ça, c'est en Grande-Bretagne. Et c'est tout un message, effectivement, à la veille de la conférence sur le climat qui va avoir lieu à Copenhague en décembre.
Cependant, elle disait aussi, il faut le souligner, qu'on peut encore renverser la vapeur ionique si on commence à diminuer les émissions d'ici 10 ans. On pourrait alors se limiter dans les faits à une hausse moyenne de 2 degrés. Le GIEC souhaite d'ailleurs une réduction de 50% des émissions d'ici 2050 pour atteindre cet objectif. Mais pour cela, il faut renverser rapidement la tendance, parce que pour le moment, les émissions globales continuent à augmenter. Alors, je vous donne une idée. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les émissions de CO2, donc de dioxyde de carbone, qui sont liées au seul secteur de l'énergie, augmenteront de 130% d'ici 2050, à moins que de nouvelles politiques ne soient établies. Donc, on est loin du compte. Et en plus, ajoutez à ça le fait qu'on évoque de plus en plus la possibilité qu'au-delà d'un certain seuil, d'un point de rupture, le climat pourrait carrément se dérégler au point d'en devenir imprévisible.
Heureusement, quand même, Chantal, on n'est pas là. Hein. Non, il y a encore quelques années devant nous. Hein. Mais pour revenir là, à cette éventualité d'un réchauffement global à température de 4 degrés, là, ce dont on parle là, est-ce qu'on a la moindre idée de ce que ça voudrait dire concrètement sur le terrain?
On en a beaucoup parlé à cette conférence 4 degrees and beyond qui avait lieu à Oxford. Déjà à 2 degrés de plus, Yannick, on craint des effets néfastes. Alors imaginez à 4.
Ah oui.
Contentons-nous, si vous voulez bien, de quelques chiffres. Une hausse globale de 4 degrés Celsius, ça pourrait vouloir dire 15 degrés de plus en Arctique, 10 degrés de plus dans certaines zones de l'Afrique, particulièrement dans l'ouest et le sud, où on pourrait également enregistrer en même temps des baisses des précipitations de l'ordre de 20 %. L'eau là-bas pourrait donc se faire encore plus rare.
Oui, un scénario vraiment qui fait peur. Alors, comment est-ce qu'on a accueilli tous ces résultats-là à la conférence?
Mais sans faire de mauvais jeu de mots, Yannick, je me contenterai de vous dire que pour plusieurs des participants, le climat était pour le moins morose. J'ai parlé à l'un d'entre eux. Il s'appelle Bertrand Guillaume. Il est ingénieur de formation et il a par la suite bifurqué vers les études économiques. Alors aujourd'hui, il est maître de conférence à l'Université de technologie de Troyes en France. Il est également professeur associé à l'Université de Sherbrooke. C'est un habitué des conférences scientifiques sur le climat. Il était par exemple à Copenhague en mars dernier pour un congrès scientifique préparatoire au sommet de décembre prochain. Et il avait été invité, imaginez, à Oxford pour prononcer une conférence sur les défis à surmonter pour éviter un monde 4 degrés plus chaud. Alors je lui ai demandé de me parler tout d'abord du climat qui régnait à Oxford la semaine dernière.
Écoutez, je suis partagé, je dirais une forme de conviction scientifique, hein, puisque les résultats s'accumulent avec de plus en plus de confiance. Tous les signaux sont en rouge, hein, si j'ose dire. Tous les indicateurs climatiques vont dans le sens prévu par le modèle, dans la droite ligne du consensus international de l'IPCC.
Le GIEC, oui, le groupe d'experts sur le climat, oui.
Voilà. Et d'autre part, beaucoup de préoccupations parce que, en réponse à ces résultats scientifiques qui, avec le temps, sont de plus en plus sombres,
une piètre réponse politique, je dois dire. Et donc, à l'heure où les négociations vont prendre un tour très important à Copenhague, et où elles se déroulent déjà à Bangkok pour préparer tout ça, une sorte de doute des scientifiques, même une professeure parmi les plus brillantes qui étaient sur place a dit, moi, en fonction de l'issue de Copenhague, je change de métier, quoi. Parce que j'ai consacré ma vie à travailler à ce problème scientifique. On n'en est plus, si vous voulez, à des incertitudes majeures. Donc il y a toujours des incertitudes, comme dans tous les problèmes scientifiques, mais bon, on a une théorie qui est très solide, qui est confirmée par les observations, avec un consensus qui peut-être a jamais existé dans toute l'histoire de la science, et pourtant une sorte d'apathie, d'immobilisme dans les décisions publiques, dans les politiques. Alors il y a toujours un peu d'espoir dans la mesure où les individus, les communautés peuvent prendre des initiatives, mais on est clairement en face d'un problème global qui va demander une réaction coordonnée.
Il y avait un message donc très fort, ne serait-ce que par le fait même, M. Guillaume, qu'on tenait une conférence sur la grande thématique de 4 degrés et plus, parce que c'est relativement nouveau d'opter pour ce scénario du pire qui a été élaboré par le GIEC.
Oui, si vous voulez, il y a une sorte de glissement, c'est-à-dire que historiquement, dans les négociations internationales, dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui était adoptée à Rio en 92, il y avait l'ambition d'éviter une perturbation dangereuse du système climatique. Et assez vite, la limite qui est apparue, la limite de ce danger, c'était 2 degrés. Donc pour des raisons scientifiques et pratiques, 2 degrés, les gens se sont un peu focalisés sur ces 2 degrés et sur des cibles, si vous voulez, d'émissions correspondantes. Et puis, comme je vous le disais, au fur et à mesure des années, des rapports successifs, de plus en plus alarmants des scientifiques de par le monde, la seule chose qui est restée vraie, si vous voulez, c'est que les émissions, elles ont continué à augmenter. Cette ambition, cette cible de 2 degrés a commencé à paraître à certains un peu difficile à atteindre, voire impossible. Donc de la même façon, tout le monde garde encore évidemment de l'espoir. Voilà, on a des enfants, etc. On pense que c'est aussi presque une conséquence philosophique. C'est que l'homme a les moyens d'orienter sa propre destinée, le libre choix, etc. La politique, c'est le sens de la politique. Mais évidemment, est apparue l'idée que c'était peut-être un peu difficile, que se focaliser sur les 2 degrés, c'était éventuellement presque contrefactuel à l'heure actuelle. Et donc, cette conférence a mis l'accent sur une autre cible, qui est celle des 4 degrés, alors qui est évidemment pas la plus agréable. Donc moi, le sentiment que j'ai un peu, si vous voulez, c'est que on trouve toujours des excuses pour reculer. Au début, on parlait de mitigation, c'est-à-dire vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on a commencé à parler d'adaptation, parce qu'effectivement, les communautés humaines vont s'adapter, etc. Mais le fait de parler d'adaptation a fait que, finalement, la mitigation, c'était plus si important que ça, puisqu'on allait s'adapter. Et puis maintenant, on voit que on peut toujours s'en sortir parce que on pourrait éventuellement, plus tard, avoir des émissions négatives. Mais il faut bien voir que ce qui compte, c'est la quantité globale de gaz à effet de serre qu'on envoie dans l'atmosphère, et celle-là, elle augmente. Et si on veut qu'elle tende vers une limite finie, il va falloir non seulement qu'elle atteigne un pic assez rapidement, mais en plus, ensuite, qu'elles descendent. Et donc, on va devoir aller vers une décarbonisation massive des économies, qu'on le veuille ou non.
C'était Bertrand Guillaume, qui est maître de conférence à l'Université de technologie de Troyes, en France, et qui est professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Chantal, un message clair.
Pour les dirigeants qui s'apprêtent à se rencontrer à Copenhague, les scientifiques leur disent, leur répètent et le crient maintenant sur tous les toits. Faites quelque chose.
Merci beaucoup, Chantal.
Je vous en prie.
Vous écoutez Les Années Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir, en deuxième heure, le Nobel de médecine pour les télomères et la télomérase. Normalement, des cellules de la peau en culture se divisent une cinquantaine de fois avant de mourir, sauf que...
si on prend les mêmes cellules et que de façon au laboratoire, on réintroduit l'enzyme télomérase dans ces cellules-là, maintenant, plutôt que de se diviser une cinquantaine de fois et d'entrer dans ce phénomène de sénescence réplicative, oui. On a maintenant des cellules qui peuvent se diviser de façon indéfinie dans les boîtes de Pétri, donc on a immortalisé ces cellules-là.
C'est l'heure du facteur sonore. La question cette semaine porte sur la musique et le cerveau.
Bonjour, mon nom est Pierre McLeod Tremblay de Montréal. Tout le monde sait bien que la musique est un assemblage de sons, que les sons sont des ondes transmises par la vibration des molécules d'air qui font ensuite vibrer nos têtes, pour finalement se retrouver dans notre cerveau sous forme d'impulsion électrique. Mais rendu là, qu'est-ce qui se passe pour que nous ayons des réactions émotionnelles avec cet assemblage de sons qu'est la musique? D'où origine ce pouvoir évocateur de la musique? Quel est le lien étrange qu'elle entretient avec nos émotions?
Alors, pour répondre à cette belle question de Pierre McLeod Tremblay, Hugues de Roussan a joint Nathalie Gosselin, qui est professeure invitée à la Faculté de musique de l'Université de Montréal et qui est aussi associée de recherche au Laboratoire international de recherche BRAHMS à Montréal, donc sur le cerveau, la musique et le son.
Lorsqu'on entend de la musique, il y a plusieurs réseaux dans le cerveau qui vont être activés, notamment au niveau auditif, pour pouvoir entendre la musique. Mais il y a également au niveau moteur, on peut imaginer que si on bouge le pied pour taper les pulsations de la musique, on va avoir notre système moteur qui va être associé. Si par exemple on voit un spectacle, ben il y a notre système visuel également qui va être suscité. Et puis si on a par exemple des émotions qui sont évoquées par la musique, il va avoir tout le système émotionnel qui va être sollicité. Il y a une étude qui a été faite par une équipe à l'Université McGill, notamment par le docteur Zattori, qui a démontré que dans le cas où on faisait écouter la musique à des gens et qu'il y avait des frissons associés à cette musique-là, il y avait des structures dans le cerveau qui sont associées au plaisir.
Est-ce que ça veut dire qu'à la limite, quelqu'un qui éprouverait beaucoup de plaisir en écoutant de la musique pourrait simplement devenir accro?
Je ne sais pas si on peut devenir accro ou si on ne l'est pas tous un peu déjà accro à la musique, mais par exemple, la notion de la structure qui est activée par les frissons musicaux, c'est des structures qui avaient été par le passé associées à d'autres plaisirs, comme par exemple quand on mange du chocolat, associées aussi à la cocaïne et aux activités sexuelles, par exemple.
On dit aussi que la musique a un pouvoir évocateur dans le sens qu'en écoutant une musique, il y a toute une série d'événements qui reviennent en mémoire. Ça peut être des images, ça peut être des odeurs, ça peut être des sons. Est-ce qu'il y a un lien direct entre les différentes couches de mémoire et la musique?
Les circuits dans le cerveau qui sont utilisés ou suscités, qui sont associés aux émotions musicales, il s'avère que c'est les mêmes réseaux cérébraux qui sont associés à d'autres sortes de stimuli. Par exemple, pour reconnaître les émotions exprimées par la voix, exprimées par les expressions faciales. Il semble que les mêmes structures soient sollicitées par les émotions, qu'elles viennent de la musique ou par d'autres domaines. Donc, il n'est pas étonnant qu'il peut y avoir une association entre les émotions évoquées par la musique ou évoquées par d'autres types de stimuli.
Ou éventuellement même se souvenir d'événements qui se sont produits dans le passé qui ont été à l'époque reliés à une musique.
Oui, par exemple, si on est un peu plus romantique, on se souvient à peu près tous de la première danse qu'on a dansée avec notre amoureux. On se souvient de l'amoureux et également de la musique qui jouait à ce moment-là.
Est-ce que des fois on oublie l'amoureux et on conserve la mémoire de la musique?
La mémoire de la musique est effectivement très profonde. Je pourrais pas répondre de façon scientifique en ce qui concerne l'amoureux, mais il est vrai que, par exemple, il a été démontré, ou parfois comme anecdote, chez les patients Alzheimer qui ont des capacités mnésiques réduites, il y a parfois les souvenirs anciens qui vont être préservés. Et dans ces souvenirs anciens-là, il y a souvent la mémoire musicale. Les thérapeutes vont parfois nous décrire, ou la famille vont parfois nous décrire, qu'un patient qui a du mal à se souvenir même de ses proches va entendre le refrain d'une musique qu'il jouait quand il était plus jeune et puis qu'il va se mettre à pouvoir la chanter, parfois même la jouer dans le cas de musicien.
Avec tout ce que la musique fait faire au cerveau et fait évoquer au cerveau, est-ce que on pourrait utiliser la musique comme moyen thérapeutique pour déclencher ou provoquer des choses?
Il y a des études qui ont démontré que la musique pourrait affecter la perception de la douleur. Donc, si on a une musique agréable, par exemple, qui est jouée au même moment où on a à subir une intervention douloureuse, il est possible que l'on perçoive cette intervention-là moins douloureuse dans le cas où la musique serait agréable.
C'était Nathalie Gosselin qui est associée au laboratoire Brahms de Montréal sur le cerveau, la musique et le son. Alors si vous avez vous aussi des questions, vous pouvez nous les poser. Par téléphone de la région de Montréal, vous composez le 514-597-6166. D'ailleurs au pays, vous faites le 1-800-752-9050. Puis il y a toujours le courriel, bien sûr, lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière pour terminer cette première heure avec cette semaine Marie-Dominique Beaulieu. Bonjour Marie-Dominique.
Bonjour.
Médecin au centre hospitalier de l'Université de Montréal, l'hôpital Notre-Dame, notre médecin en résidence.
Eh oui.
Marie-Dominique, on va parler aujourd'hui de « c'est difficile », de son vrai nom, Clostridium difficiles, hein, pour
voilà.
dire son nom latin.
Oui.
Bon, on se rappelle l'éclosion de cette bactérie dans les hôpitaux du Québec en 2003-2004. Le combat contre les microbes, par définition, c'est jamais fini. Ça continue. On a encore vu cet été, d'ailleurs, des éclosions, par exemple, dans un hôpital de la région de Sorel-Tracy. Alors, vous voulez revenir aujourd'hui, Marie-Dominique, sur cette fameuse bactérie, alors Clostridium difficiles.
Voilà.
On va l'appeler C'est difficile.
C'est difficile. Voilà, son petit nom.
Alors, la bête.
Écoutez, il est connu depuis des lunes, ce microbe. Je me rappelle quand j'ai fait mon cours de médecine. Mais c'était quand même assez rare qu'on rencontrait ce qu'on appelle donc la colite causée par les antibiotiques. On y reviendra.
Mm-hmm. Oui.
Mais le Clostridium, le C'est difficile, arrive à vivre chez nous si on est exposé ou relativement à l'exposition à des antibiotiques. Parce que ce n'est pas un habitant là, normal de notre flore intestinale.
D'accord, oui.
Ça, c'est important.
C'est un intrus.
C'est un intrus qui
D'accord.
s'attrape mm-hmm. par voie fécale orale, c'est-à-dire essentiellement par nos mains, qui entre en contact avec des surfaces qui ont été contaminées, directement ou indirectement par des selles. Le Clostridium peut vivre pendant des jours et des jours sur des surfaces sèches et même sur des vêtements. Donc, il est très résistant.
Vous dites pas naturellement présent dans notre flore intestinale,
non,
mais il arrive.
Oui.
Normalement, il est éliminé.
C'est ça, parce que notre flore intestinale, en fait, c'est plein de microbes dans notre intestin mm-hmm. et qui arrivent à l'éliminer, si vous voulez. Mm-hmm. Mais on peut devenir colonisé comme individu, c'est-à-dire le C. difficile peut vraiment s'installer à demeure dans notre intestin. Et ça, c'est vraiment favorisé par l'exposition aux antibiotiques mm-hmm. qui détruisent une partie de notre flore et en particulier ce qu'on appelle des antibiotiques à large spectre qui sont
très
apparus.
Très largement utilisés aussi.
De plus
dire,
en
oui.
plus utilisés.
Oui, oui, oui.
On reviendra là-dessus.
Mm-hmm.
Bon, on peut être colonisé sans avoir de symptômes et bien sûr, on peut vraiment faire ce qu'on appelle la fameuse colite, qui est une colite qui est due en fait à une toxine qui est sécrétée par le germe et là va se manifester par de la diarrhée, vraiment des diarrhées importantes et de la fièvre. Et c'est sûr que si comme personne, comme individu, on a des problèmes de santé, on est un peu, je dirais, diminué au niveau immunitaire, on est beaucoup plus à risque de faire une colite qui est sévère.
On parle du mégacolon, c'est quoi ça?
Oui, en fait c'est que ce microbe peut provoquer sa toxine, des gaz, une sécrétion de gaz à l'intérieur qui fait comme gonfler le côlon jusqu'à un risque d'éclatement, en fait, du côlon, ce qu'on appelle le mégacolon toxique, qui est, en fait, l'urgence, je dirais, la grande urgence de la colite par C'est difficile, où on est obligé, finalement, d'opérer de façon urgente pour enlever le côlon.
Et vous dites que l'infection, effectivement, est plus grave chez des gens qui ne sont pas en très bonne santé.
Exactement.
Et ça donne que les gens qui ne sont pas en très bonne santé sont parfois à l'hôpital, n'est-ce
voilà,
pas? Oui, c'est
voilà.
une remarque qu'on peut faire.
Voilà.
Oui, c'est ça. Revenons un petit peu à cette éclosion québécoise. On a dit 2003. 2003-2004. On se rappelle que ça a été vraiment une crise assez importante dans nos hôpitaux en général, parce que c'était un peu partout hein, quand même, que cette éclosion, que, avec plusieurs décès attribuables, directement ou indirectement d'ailleurs, les décès, oui.
Oui, directement ou indirectement, là, parce que dépendant, de, on peut être tellement affaibli que pour d'autres raisons, au niveau cardiaque, bon, on peut vraiment décéder sans que ce soit comme telle la diarrhée.
Alors, cette éclosion, ça a été grave.
Ah oui, écoutez, 10 fois plus de personnes hospitalisées de 65 ans et plus, dont un nombre non négligeable ont justement eu un mégacolon toxique et ont nécessité une colectomie. Bon, c'est sûr, ça a eu un impact, on s'est questionné sur les mesures d'hygiène, sur bon l'organisation des services, mais on a découvert, et je dirais que l'éclosion du Québec a fait école au niveau international.
À ce point, oui.
En fait, on a découvert que c'était une souche particulièrement virulente et à la rigueur nouvelle de ce Clostridium difficile, si vous voulez, qui a été vraiment la cause de la sévérité
cœur,
de l'éclosion.
Au cœur de la crise.
Oui.
Une nouvelle souche.
C'était
parce
une nouvelle souche.
Il faut dire que les microbes évoluent, bien sûr.
Ils s'habituent.
Ils s'habituent.
Tout à fait.
Par les lois de la sélection, les plus forts peuvent dominer. Et effectivement, on a eu ça. Et c'est bien établi maintenant qu'on avait effectivement affaire à une souche pas comme les autres.
Exactement, qui produisait à peu près 3 ou 4 toxines différentes.
Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Donc,
oui.
Il y a quand même, bon, bien sûr, la souche qui est
bon, la
évolue.
Souche qui, je veux revenir encore, parce qu'on en parle, les gens sont sensibilisés, qui évidemment, souvent, ces super microbes émergent à cause d'une utilisation d'antibiotiques, d'une exposition aux antibiotiques. Donc, je dirais, il y a eu beaucoup d'impact en ce qui concerne là, dans nos hôpitaux de cette éclosion. D'abord, une utilisation, je dirais, plus rigoureuse des antibiotiques. On essaie de plus en plus d'utiliser le moins possible des antibiotiques, ce qu'on appelle à large spectre, à moins que ça ne soit pas nécessaire, que ce soit nécessaire, ça c'est important.
Mm-hmm.
C'est sûr que peut-être on a remarqué qu'il y avait eu un relâchement dans certaines mesures d'hygiène.
C'est ce qu'on a dit beaucoup à l'époque.
Bon, on en a beaucoup parlé.
On fait plus le ménage, bon, ça va mal, etc.
Bon,
oui.
Ça, je pense, c'était un peu exagéré. C'est sûr qu'il y a eu un impact sur les produits, ont changé, on est devenu très prudent. La sensibilisation au lavage des mains, et je dois dire qu'on sait que les professionnels et même les médecins, des fois, ça a été un petit peu délinquant. Bon.
Mm-hmm. On a souvent lu des choses
là-dessus. Oui, on en a lu.
Les médecins qui se lavent le moins souvent les mains.
De tous les professionnels. Alors, je pense qu'il y a eu une très, très, très grande sensibilisation. L'isolement rapide de tout patient qui présente une diarrhée en milieu hospitalier. Donc, c'est très important. Et puis, c'est sûr que ça a amené à réfléchir, je dirais, au nombre de personnes qui cohabitent dans des chambres.
Oui.
Et ça, c'est pas seulement pour le Clostridium difficile, là, c'est pour toutes les infections nosocomiales. C'est pour des questions, en fait, ça fait pas, je pense que c'est assez clair, là, d'hygiène et surtout de simplification du travail, parce que dès qu'une personne est infectée, on doit la déménager. S'il y a déjà 2-3 autres personnes dans la chambre, on doit encore souvent déplacer encore plus de personnes.
Et effectivement, c'est quand même assez, vu de l'extérieur, on est bien habitué à ces chambres à 2 ou 4 personnes, mais vu de l'extérieur, c'est un peu surprenant que finalement on mette 2 malades dans une même chambre.
Enfin, il y a des maintenant on voit ça s'est discuté dans le nouveau CHUM, mais quand on regarde dans plusieurs hôpitaux nouvellement construits à travers le monde, on réduit beaucoup les chambres à 2. Il y en a certains qui en ont quand même là, mais justement pour des raisons de prévention des infections nosocomiales, mais aussi pour d'autres raisons humaines.
De toutes les sortes d'infections et pour des raisons humaines, oui.
De soins aussi, d'organisation de soins.
Après tout, à l'hôtel, on partage pas sa chambre ni sa salle de bain avec les voisins?
Non, ça c'est certain.
Alors on pourrait peut-être faire la même chose à l'hôpital?
C'est à voir. Évidemment, ça a des impacts importants au niveau budgétaire. On ne peut pas rénover tous les hôpitaux pour les mettre à une chambre pour le moment.
Mais ce serait une bien bonne idée. Merci beaucoup, Marie-Dominique.
Ça m'a fait plaisir.
Et voilà, c'est la fin de la première heure. Ce soir, à la télévision de Radio-Canada, à 18h30, c'est Découverte, le deuxième volet de la spéciale, donc sur le cancer, qui a commencé la semaine dernière. Cette semaine, Découverte s'intéresse à 4 patients qui ont affronté le cancer. Cela dit, vous restez avec nous après les nouvelles, notre spécial prix Nobel 2009. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu, toujours à l'équipe pour vous présenter le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors cette deuxième heure, on la commence bien sûr avec notre spécial Nobel 2009, la médecine, la physique, la chimie. On aura ensuite un petit journal de la science et pour terminer, l'auteur de la semaine. C'est Chantal de Srivastava qui va le recevoir. En fait, il s'appelle Jean-Pierre Sylvestre et son livre s'intitule « Le grand dauphin et ses cousins ». C'est paru aux éditions de la Chaux-Niesley. Alors, le Nobel de médecine ou physiologie, car c'est comme ça qu'il s'appelle, médecine ou physiologie, le Nobel est allé à Elizabeth Blackburn, de l'Université de la Californie à San Francisco, à Carol Greider, de l'Université Johns Hopkins, et à Jack Szostak, de l'Université Harvard. Ils ont été récompensés pour avoir découvert, et je cite, « comment les chromosomes sont protégés par les télomères et l'enzyme télomérase ». Télomère, télomérase, ce sont des mots que vous avez sans doute déjà entendus à cette émission, mais dont il faut quand même rappeler la définition en commençant par les télomères.
Ça serait défini comme étant l'extrémité des chromosomes, donc notre matière génétique. Et les télomères, ce sont des séquences spéciales qui agissent comme des capuchons au bout de ces chromosomes pour essentiellement les protéger et maintenir l'intégrité de notre matière génétique aux extrémités des chromosomes.
Et la télomérase, maintenant, bien la télomérase qui, comme le suffixe « ase » l'indique, est une enzyme.
Cette enzyme essentiellement synthétise ou maintient les extrémités des chromosomes ou les télomères.
Chantal Autexier de l'Institut Lady Davis pour la recherche médicale à l'Hôpital général juif de Montréal a été cette semaine une chercheure très heureuse, spécialiste des télomères. Elle a fait son post-doctorat pendant 5 ans avec l'une des nobélisées de cette année, Carol Greider. Alors on va retrouver Chantal Autexier dans quelques minutes après un autre chercheur S-télomère, Serge Gravel du département de microbiologie de l'Université de Sherbrooke. Serge Gravel qui rappelle tout d'abord que la recherche sur les bouts des chromosomes remonte aux années 1930.
La description initiale vient d'un chercheur qui s'appelle Müller. Et ce que lui faisait à l'époque, c'était d'irradier des cellules pour en fait briser la double hélice d'ADN. Donc, il créait de façon aléatoire des cassures dans la double hélice d'ADN. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que ces cassures dans la double hélice d'ADN étaient très réactives à l'intérieur des cellules. Ces morceaux-là étaient fusionnés ensemble ou réarrangés. Par contre, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que ces événements de fusion ou de réarrangement n'impliquaient jamais les fins naturelles des chromosomes.
L'extrémité des chromosomes.
C'est bien ça. Et de ces observations-là, il a émis l'hypothèse que l'extrémité des chromosomes était un peu particulière et qu'elle devait avoir des fonctions qui leur permettent en fait, d'être maintenu de façon stable dans les cellules. Et c'est lui qui a amené ce concept-là, et c'est aussi lui qui a nommé les extrémités des chromosomes télomères.
On avance un peu dans le temps et on essaye toujours de comprendre ce que sont ces télomères en question.
Dans les années 50, quand on a commencé à comprendre un peu mieux les mécanismes de réplication de l'ADN, donc si une cellule veut se diviser, la première chose qu'elle doit faire, c'est de faire une copie de ses chromosomes, donc de son ADN, par un mécanisme qui s'appelle la réplication de l'ADN. Et ce qu'on s'est rendu compte dans les années 50, lorsque les gens ont fait ces expériences-là, c'est que les machines qui sont à l'intérieur des cellules qui permettent de faire les copies des chromosomes n'étaient pas en fait en mesure de répliquer complètement les chromosomes et que des petits bouts à l'extrémité des chromosomes ne pouvaient pas être répliqués.
Ce qui donc, fait que des morceaux de télomères, il en manquait un petit bout normalement.
C'est bien ça. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'une cellule se divise, l'idée, c'est que les chromosomes, en fait, rapetissent. parce que la machinerie de réplication n'est pas capable de compléter la réplication jusqu'aux extrémités.
Donc ça, c'est les années 50. Puis on va sauter là aux années 70, 80, les travaux de nos nobilisés d'aujourd'hui.
Donc les travaux des nobilisés, en fait, ce qu'ils ont permis de mettre en évidence, c'est les principes moléculaires pour expliquer ces observations-là qu'on avait faites dans les années 30 et dans les années 50. Donc ce qu'ils ont mis en évidence, c'est des structures particulières à l'extrémité des chromosomes. Donc, le travail initial a été fait par Elizabeth Blackburn. Et elle, ce qu'elle a réussi à faire pour la première fois, c'était d'avoir une identité sur la séquence des ADN qu'on retrouve à l'extrémité des chromosomes. Et ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que ce sont des répétitions de certains nucléotides qu'on retrouve répétées sur une certaine distance, en fait.
Donc, ces découvertes, récompensées par le Nobel 2009, ont permis de mieux comprendre le fonctionnement des chromosomes et le maintien de leur qualité, c'est pas mal. Et ça a ouvert un champ de recherche considérable. De nouveau, Chantal Autexier, de l'Institut Lady Davis, à l'Hôpital Général Juif de Montréal.
La façon dont les cellules se divisent cause un raccourcissement des chromosomes ou des télomères s'il n'y a pas un mécanisme pour maintenir ces télomères. Et éventuellement, si les télomères deviennent trop courts ou si leur intégrité est affectée, la survie de la cellule va être mise en question. Donc, c'est très important de maintenir ces télomères et donc l'importance de la télomérase.
Et c'est pour ça qu'on dit donc que télomères et télomérase sont vraiment très étroitement lié au vieillissement. C'est un sujet qui vous intéresse aujourd'hui parce que vous travaillez sur les télomères. Télomères et vieillissement, hein?
Exactement. Donc, au niveau de la cellule, un raccourcissement des télomères peut engendrer une sénescence de cette cellule.
On comprend bien ce qui se passe, là, finement?
C'est évidemment très compliqué. Le vieillissement d'une cellule, c'est peut-être plus simple que le vieillissement d'un organisme en entier. Par contre, c'est clair, avec des modèles animaux, ça a été démontré que si on fait des altérations aux composantes de la télomérase, qu'il y a des problèmes qu'on pourrait voir aussi, des phénotypes qu'on pourrait voir dans le vieillissement chez l'humain, par exemple. Il y a aussi des altérations dans les composantes de la télomérase ou dans les composantes associées à la télomérase qui ont été identifiées dans une maladie qu'on peut dire une maladie de vieillissement précoce qui s'appelle la dyskératose congénitale.
Alors, ça se présente comment, cette maladie? Donc, c'est une maladie génétique rare, j'imagine?
C'est une maladie génétique assez rare, mais héréditaire, exactement, où est-ce qu'on voit un vieillissement précoce et les phénotypes se voient principalement et plus rapidement dans des tissus dont il y a une division cellulaire rapide, donc dans la peau et dans la moelle osseuse. Et ces gens qui sont atteints de cette maladie meurent assez tôt dans leur vie, dû à essentiellement un problème de moelle osseuse.
Et pour continuer sur cette relation entre télomère et vieillissement, eh bien écoutez cet exemple de Serge Gravel de l'Université de Sherbrooke.
Si on prend des cellules de la peau chez un humain, donc les cellules du derme, oui. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cultiver ces cellules-là au laboratoire. Donc, on peut les mettre dans des boîtes de pétri et avec un milieu approprié, on peut permettre à ces cellules-là de se diviser. Ce qu'on se rend compte en faisant ça, c'est que les cellules vont pouvoir se diviser environ une cinquantaine de fois. Et ensuite, elles entrent dans un état qu'on appelle la sénescence réplicative. Et la raison pour laquelle, en fait, elles se divisent environ une cinquantaine de fois et arrêtent de se diviser, c'est que à chaque fois que ces cellules-là se divisent, leurs télomères raccourcissent jusqu'à un point où ils deviennent non fonctionnels. Et lorsque les télomères sont trop courts dans ces cellules-là, ça envoie un signal à la cellule pour lui indiquer que les télomères sont rendus trop courts et que ces cellules-là, en fait, ne devraient plus se diviser. Donc, ce que les télomères font, c'est de donner une licence aux cellules pour qu'elles puissent se diviser un certain nombre de fois.
Une sorte d'horloge biologique, chromosomique. Hein?
Ouais. Ouais. Mm-hmm. Ce qui est important peut-être de mentionner ici, c'est que dans ces cellules-là qu'on regarde au laboratoire, c'est des cellules qui n'expriment pas la télomérase. Par contre, si on prend les mêmes cellules et que de façon, au laboratoire, on réintroduit l'enzyme télomérase dans ces cellules-là, maintenant, plutôt que de se diviser une cinquantaine de fois et d'entrer dans ce phénomène de ces naissances réplicatives. Oui. On a maintenant des cellules qui peuvent se diviser de façon indéfinie dans les boîtes de pétri. Donc, on a immortalisé ces cellules-là.
Est-ce que la télomérase serait l'enzyme de l'immortalité?
In vitro, en fait, oui, tout à fait. Si on regarde au niveau cellulaire, c'est clairement un enzyme qui va permettre de prolonger, en fait, peut-être de façon indéfinie, la viabilité des cellules in vitro. In vivo, par contre, c'est là que les choses se compliquent un peu, parce que ce qu'on pense, c'est que l'évolution a sélectionné ce mécanisme-là d'érosion des télomères comme un mécanisme pour inhiber la formation des tumeurs. Donc, si on a une cellule à l'intérieur de notre corps qui commence à avoir une particularité qui lui permet de se diviser très rapidement, donc qui s'en va vers la formation d'une tumeur, le raccourcissement progressif des télomères dans ces cellules-là va en fait bloquer la progression de la tumeur.
Car l'autre grand domaine de recherche avec les télomères, eh bien, c'est le cancer. Chantal Autexier.
Il a été démontré, une fois que l'enzyme a été identifié dans des cellules humaines, qu'effectivement, la majorité des cancers expriment la télomérase plus que les cellules normales. Donc, il y a eu un grand intérêt au début des années 90 de trouver ou de cibler la télomérase comme cible anti-cancer.
On se dit donc, application possible. Est-ce qu'on a déjà des idées, par exemple, de traitement, de certains traitements contre le cancer ou de traitement ou de prévention du vieillissement?
Plutôt, lorsqu'on parle de cancer, il y a déjà des molécules contre la télomérase, la composante ARN de la télomérase, qui sont en essai clinique en ce moment. Donc, plus du côté cancer que du côté vieillissement. Le côté vieillissement est peut-être, je ne sais pas si on pourrait dire plus complexe que le cancer, mais très complexe. Et pas nécessairement vu comme une maladie, donc... En activant la télomérase dans des cellules qui vieillissent ou qui ont un raccourcissement des télomères, pourrait être utile, peut-être, pour améliorer la qualité de certaines cellules, peut-être dans certains cas dans le vieillissement où certains tissus sont affectés. Mais de là à voir ça comme une possibilité pour un organisme entier d'arrêter de vieillir, ça c'est peut-être un peu plus poussé.
Eh bien non, le prix Nobel ne nous donnera pas l'immortalité. C'était Chantal Autexier de l'Institut Davis, Lady Davis pour la recherche médicale à l'Hôpital général juif de Montréal et auparavant Serge Gravel du département de microbiologie de l'Université de Sherbrooke. Alors, on a dit du Nobel de physique de cette année qu'il avait été attribué cette semaine à 3 maîtres de la lumière. Sophie André Blondin, ce sont vraiment des scientifiques éclairés qu'on a couronnés?
Oui, couronnés, en fait, je dirais qu'ils sont beaucoup plus généreux que l'appellation maître ne porte à croire, parce que ce sont des scientifiques qui ont grandement contribué à démocratiser la lumière, qui l'ont rendue accessible, qui ont rendu l'information qu'elle peut transporter accessible au plus grand nombre. Alors, les travaux de Charles Kao sur la fibre optique, les inventions de Willard Boyle et George Smith avec les capteurs CCD ont été faits dans les années 60, et depuis ce temps-là, la vie de tout le monde qui nous écoute, de vous, de moi, de tout le monde qui nous écoute, notre vie a drôlement changé. Sans ces inventions, on ne peut pas imaginer la téléphonie, les fameux téléphones cellulaires, Internet, les photos numériques. On ne peut pas non plus imaginer les images spectaculaires de planètes, de galaxies
lointaines. Vraiment, vraiment, effectivement, on avait besoin d'eux. Alors, l'un des pères des capteurs CCD est Canadien, on l'a dit, hein? Alors à tout seigneur ou à tout Canadien, tout honneur, on commence par lui.
Commençons par ici. En 1969, Willard Boyle, qui était né qui est en Nouvelle-Écosse, diplômé de l'Université McGill à Montréal, travaillait avec un collègue américain, George Smith. Ils étaient toujours pressés par leur patron dans leur bureau des laboratoires Bell au New Jersey pour faire des découvertes. Alors, ils se sont, à un moment donné, impatientés en une heure sur un tableau noir. On dit qu'ils ont imaginé la première technologie de capteurs CCD, des dispositifs à couplage de charge. C'est une façon de capter la lumière, les photons de la lumière, et les transformer en charge sur des électrons. Alors, la photo numérique, d'une certaine façon, était né. Et aujourd'hui, les appareils numériques vont dans votre poche, mais on les retrouve aussi sur les plus grands télescopes parce que les capteurs CCD sont beaucoup plus sensibles que la pellicule argentique qu'on utilisait auparavant. Alors, 40 ans plus tard, les capteurs CCD sont encore plus sensibles que les originaux. On a mis au point des procédés multiplicateurs de photons, des dispositifs pour réduire le bruit de lecture, comme un tout nouveau contrôleur EM-CCD développé ici à l'Université de Montréal, acheté tout récemment par la NASA. Claude Carignan est professeur au département de physique de l'Université de Montréal. Il nous parle des capteurs CCD qui ont valu le Nobel de physique, en partie, à Willard Boyle et George Smith.
La découverte et la mise au point des CCD, c'est une révolution aussi importante que le transistor a été comme révolution dans tout le domaine de l'électronique en général. La mise au point du CCD a amené la même révolution au niveau de l'imagerie. Jusqu'au moment où on a mis au point les CCD, les jeunes vont peut-être oublier, mais c'est les plaques photographiques qui étaient utilisées. Et les plaques photographiques, pour prendre une belle image de quelqu'un, c'était très bien. Mais pour faire de la science, c'était vraiment le pire détecteur qu'on pouvait utiliser, parce que c'est un détecteur qu'on dit, nous, qui est non linéaire. C'est-à-dire que le noircissement de la plaque n'était pas proportionnel à la quantité de lumière qui arrivait. Donc, il fallait faire toute une calibration pour transformer le noircissement de la plaque pour savoir à quelle quantité de lumière ça correspondait. La grosse révolution du détecteur CCD, entre autres, c'est un détecteur linéaire, c'est-à-dire il arrive X photons, ben on a X photons de compter sur le pixel de notre détecteur. Donc, on n'a plus ce problème-là. Donc, au niveau scientifique, ben c'est super. Parce que c'est quoi un CCD? Un CCD reçoit un photon de lumière. Ce photon de lumière-là génère un électron et il y a un système électrique qui détecte combien d'électrons, justement, sont lus dans le système.
Et ça se fait dans une case. Dans chaque case, on a la proportion de lumière qui a été reçue.
C'est ça, les cases qu'on appelle pixels. Puis les gens sont habitués maintenant. Il y a déjà des caméras numériques à 1,2 million de pixels. Bon, au début, c'était, ça a commencé 32 par 32, 512 par 512. Bon, aujourd'hui, on fait des mosaïques de ces détecteurs-là. On a réduit le bruit de lecture. Mais il y avait quand même toujours cette limitation-là du bruit de lecture. Mais malgré ça, ça a permis de faire des avancées. Le télescope spatial Hubble n'aurait pas fait le 5% de ce qu'il a fait si les détecteurs CCD n'avaient pas été disponibles.
Là, on est dans la très grande science astrophysique de pointe, l'observation astronomique très, très, très loin. L'invention du CCD, on la vit aussi dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment une de ces inventions qui a à la fois des applications au quotidien pour tout le monde et dans la science de pointe.
C'est ça, les gens pensent souvent que c'est tout simplement des scientifiques qui s'amusent à mettre des choses. Mais la majorité des gens qui vous écoutent actuellement ont probablement un cellulaire et dans ce cellulaire-là, ils ont probablement un appareil photo. L'appareil photo, ça utilise un détecteur CCD. Un détecteur CCD qui, entre autres, le principe a été mis au point par le récent prix Nobel. Et beaucoup de développements sur les CCD, ben, c'est les astronomes qui les ont amenés parce qu'eux en avaient besoin de détecteurs de plus en plus sensibles, de détecter des sources de plus en plus faibles. Et le EM-CCD, ben, on se reparle dans 10 ans. Probablement, c'est ça que vous aurez dans votre portable à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ça va être un détecteur qui va être encore plus sensible à des très faibles flux. Ça veut dire probablement dans 10 ans avec votre portable, le soir, à l'extérieur, sans éclairage, vous allez pouvoir prendre une photographie. Et vous direz, j'ai entendu aux années-lumière il y a 10 ans que ces détecteurs-là t'as développé. C'est une des applications, là, les caméras numériques. On n'en parle pas, l'imagerie médicale aussi. Ça a plein d'autres applications hors l'astrophysique.
C'était Claude Carignan, qui est professeur au département de physique de l'Université de Montréal. Alors, l'autre moitié du prix Nobel de physique, Sophie André, est allée à un seul homme, Charles Kao.
Oui, il est d'origine chinoise. Il a, par contre, fait carrière en Angleterre. Et c'est lui qui a imposé l'idée de faire voyager de la lumière, voyager des données, donc, le long de fibres. C'est le père de la fibre optique. Aujourd'hui, les photos numériques que vous prenez avec votre appareil cellulaire et que vous envoyez avec vos amis, elles voyagent sur des fibres optiques. Kao a suggéré qu'avec une fibre de verre, du verre le plus pur possible, il était possible de transmettre des signaux de lumière sur une distance de 100 km en minimisant les pertes, alors qu'à l'époque, on parle des années 60, les fibres qui étaient disponibles ne permettaient la transmission de données de lumière que sur quelques mètres seulement avant d'avoir de grandes pertes. André Croteau est chercheur en fibre optique spéciale à l'Institut national d'optique à Québec. Il nous explique ce qui a valu le prix Nobel de physique à Charles Kao.
Il a publié en 66 en disant « si après 1 km de fibre optique, on avait encore 1% de la puissance lumineuse, eh bien là, on peut envisager des communications par fibre optique. » Et les gens ne croyaient pas dans le domaine. Les gens essayaient de la fibre optique, mais on avait 1% de la lumière après seulement 10 mètres, 50 mètres, mais pas
un
kilomètre.
On était loin du kilomètre.
On était vraiment loin du kilomètre. Et les gens, des fois, minimisent un peu son impact. Ils disent « Ah, le père de la fibre optique, il a proposé la fibre optique et c'est tout. » Mais c'est plus ou moins vrai parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris de la silice, puis il s'est basé sur la silice et il a dit « J'ai pris des mesures très précises d'atténuation de la lumière dans une tige de silice. » Et j'arrive, selon mes mesures et mes calculs, à 5 dB par kilomètre. Donc, c'est réalisable de le faire sous le 20 dB par kilomètre, c'est-à-dire plus de 1% de transmission. Mais je pense que dès que lui a démontré qu'expérimentalement, on pourrait arriver avec ce pourcent de lumière-là au bout d'un kilomètre, eh bien là, les géants de ce monde se sont mis à développer davantage de la fibre optique. Et ceux qui ont réussi, c'est chez Corning, parce que eux, Corning, ça faisait 30 ans qu'ils travaillaient sur la fabrication de verres synthétiques de silice pour les miroirs de télescopes, des choses comme ça. Et eux, ils ont dit, ah, si Charles Kao a mesuré des faibles atténuations dans la silice, et nous, on travaille sur la silice, eh bien, on va appliquer notre principe de silice synthétique à la fibre optique. Et c'est ce qu'ils ont fait et ils ont réussi rapidement à obtenir des très bonnes fibres de qualité.
C'est ce qu'on appelle des fibres ultra pures?
Oui, c'est ultra pur, c'est principalement de la silice. Mais pour avoir une fibre optique, on a besoin de deux matériaux, si on veut. On a le cœur où la lumière se propage, qui, elle, est de silice qu'on appelle dopé avec du germanium, du dioxyde de germanium, et la gaine qu'on a besoin pour supporter la lumière, si on veut, est de silice pur. C'est encore comme ça que ça se fait aujourd'hui. Et c'est synthétique. La grande découverte, là, c'est d'avoir utilisé un procédé pour fabriquer des fibres optiques synthétiques. Parce que les verres naturels, on aura beau essayer de les purifier, tout ça, on n'arrive pas à obtenir les performances qu'on a besoin.
On se retrouve quelques années plus tard et la fibre optique, elle est partout autour de nous. Pouvez-vous nous donner une importance de l'importance qu'elle a dans nos vies?
Ça l'a pris quand même un certain temps. L'idée de Kao en 66, en 70, Corning. Mais les premiers essais de communication vraiment fibre optique, ont été à Chicago en 77. Moi, j'ai travaillé dans le domaine des fibres optiques en France en 1980 et c'était la première installation fibre optique sur Paris, un 7 km de câble fibre optique. Au Canada, c'était en 81 avec un lien fibre optique au Manitoba. Mais par la suite, ça a pris une ampleur incroyable. Puis aujourd'hui, on est rendu à presque 1 milliard de kilomètres de fibres optiques. Ça, c'est un chiffre astronomique. Imaginez, c'est 25 000 fois le tour de la Terre. C'est trois allers-retours Terre-Soleil. C'est gigantesque comme longueur de fibre. Puis moi, je me rappelle quand j'étais en France, j'appelais chez moi pour donner puis prendre des nouvelles. Puis c'était par satellite et il fallait attendre au téléphone un peu parce qu'il y avait toujours un délai. Mais dès qu'il y a eu des câbles transocéaniques fibre optique d'installer dans les années 87-88, eh bien, quand j'étais à l'étranger puis j'appelais chez moi, c'était comme je vous parle actuellement. Là, il n'y avait pas d'attente du tout. Là. Ça, alors, c'est grâce à la fibre optique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça s'est passé en Angleterre. C'est que Charles Kao, lui, est né à Shanghai. Et il est déménagé à l'âge de 15 ans avec sa famille à Hong Kong, où il a appris l'anglais. Et après, il a travaillé en Angleterre. Et les besoins de l'Angleterre en télécommunications par fil de cuivre étaient très différents de ceux des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un grand pays, les grandes distances comme le Canada, et eux croyaient beaucoup plus aux communications par satellite et les communications par ondes millimétriques. Et l'Angleterre était moins chaude parce que c'est un plus petit pays, les villages sont plus proches, les maisons sont plus proches. Eux, ils voulaient avoir un lien souple, et non un lien rigide et coûteux à installer comme celui du millimétrique. Et c'est ce qui a poussé, je dirais, l'Angleterre, la France, à s'intéresser davantage aux fibres optiques, ce qui n'était pas le cas aux États-Unis. Les États-Unis sont arrivés tard avec ça, quand ils ont vu que oui, il y aurait quelque chose. Mais ça avait été négligé du côté des États-Unis.
Alors, merci à l'Angleterre.
Merci à l'Angleterre. Puis des fois, c'est la géographie qui fait la différence.
Oui, c'est André Croteau, donc, qui est chercheur en fibres optiques à l'Institut national d'optique à Québec. Merci beaucoup, Sophie André.
Fait plaisir.
Et le troisième Nobel de science, c'est le Nobel de chimie qui a été décerné cette année à deux Américains et à une Israélienne qui ont réalisé la carte détaillée du ribosome. Alors le ribosome, c'est en quelque sorte l'usine qui synthétise les protéines à l'intérieur des cellules vivantes. C'est une molécule complexe, composé de 300 000 atomes et qui est le résultat de plus de, bon, c'est rien, 2 milliards et demi d'années d'évolution. Alors, Hugues de Roussan, qui a gagné?
Eh bien, comme on l'a dit, ils sont trois, deux Américains, Thomas Stites de l'Université Yale et Venkatraman Ramakrishnan, qui lui enseigne en ce moment à l'Université Cambridge en Grande-Bretagne. Finalement, Ada Yonat, israélienne, qui fut d'ailleurs la première des trois dans les années 70 à se lancer dans cette aventure ribosomique.
Alors, cette carte du ribosome a été publiée il n'y a pas très longtemps, en l'an 2000. Ça sert à quoi?
Eh bien, à deux choses principalement. D'abord, à mieux comprendre toutes les étapes de fabrication des protéines à l'intérieur des cellules. Et cela ouvre aussi la voie vers la conception et la commercialisation de nouveaux antibiotiques. Ella Braquier-Gingras est professeure au département de biochimie de l'Université de Montréal. Elle travaille depuis 30 ans sur le ribosome.
Parmi les trois, Ada Yonat, l'israélienne, c'est vraiment la pionnière. C'est elle qui a pensé à étudier la structure du ribosome par cristallisation et diffraction aux rayons X. Alors quand elle a commencé, tout le monde disait « c'est vraiment impossible » parce que les ribosomes, ce sont des macromolécules beaucoup trop grosses. C'est pas possible de cristalliser ça, les instruments d'analyse ne sont pas assez performants d'ailleurs, mais elle a persisté, elle a vraiment ouvert la voie.
Quand vous parlez de cristalliser, que voulez-vous dire?
C'est que les ribosomes, donc, ce sont des macromolécules que nous avons dans nos cellules, qui sont dans toutes les cellules du monde vivant. Pour analyser leur structure, il faut faire des cristaux. Des cristaux, c'est relativement facile quand vous avez une protéine, mais le ribosome, ça contient d'abord de l'ARN, c'est un type de molécule apparenté à l'ADN, ça contient de l'ARN qu'on appelle l'ARN ribosomique et beaucoup de protéines. Alors c'est très gros, c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir des cristaux.
Mais elle n'a pas été la seule à avoir le prix Nobel, il y en a quand même deux autres qui l'ont eu. En quoi ces deux autres ont pu aider, ont contribué au travail?
Les trois ont vraiment travaillé de façon indépendante, mais ce que je voulais souligner, c'est qu'elle s'est lancée là-dedans, elle a vraiment ouvert la voie. À partir des années 1990, il y a eu énormément de progrès dans les techniques de cristallisation et aussi dans l'appareillage pour analyser les cristaux. Alors, les deux autres, Venki Ramakrishnan, qui est maintenant à Cambridge, en Angleterre, et Tom Stites, qui est à Yale, ce sont des spécialistes en cristallographie. Alors, ils ont utilisé toutes leurs connaissances pour analyser aussi le ribosome.
Qu'est-ce qu'un ribosome? Puisque c'est l'objet même du prix Nobel, alors qu'est-ce qu'un ribosome?
Vous savez que les deux piliers dans la vie de la cellule, c'est d'une part l'ADN qui contient l'information génétique. À quoi ça sert cette information? C'est à fabriquer des protéines qui font, eux, le travail nécessaire à la vie de la cellule. Alors à quoi ça sert un ribosome? Ça va servir à fabriquer des protéines à partir de l'information contenue dans l'ADN. Comment ça se fait? Les ribosomes ne vont pas travailler directement sur l'ADN. L'ADN est d'abord copié en ARN. Un ARN messager, ça contient l'information pour faire une protéine. Il est constitué par des nucléotides. Il y en a quatre sortes. Et l'enchaînement de ces nucléotides, ça constitue des mots de trois lettres ou des codons. Alors chaque mot va désigner un acide aminé. La suite des acides aminés de la protéine qu'on doit faire.
Et le ribosome ne se trompe pas quand il reçoit son information pour fabriquer tel type de protéine, il ne se trompe pas?
Non, mais on dit souvent que c'est le ribosome qui lit l'information, ça ce n'est pas exact. L'information, elle est lue par des petites molécules d'ARN, qu'on appelle les ARN de transfert, qui eux lisent les mots et amènent les acides aminés correspondants. Le ribosome, il va contrôler tout le processus de fabrication des protéines. Et pour commencer, il va justement contrôler qu'on ne se trompe pas dans la lecture des mots. Les ARN de transfert qui apportent les acides aminés, seuls, ils pourraient se tromper. Et ça, ça serait grave, parce qu'ils amèneraient un acide aminé qui ne correspond pas à l'information. On aurait une protéine fautive qui ne peut pas travailler. Le ribosome, lui, contrôle vraiment l'exactitude du processus. On décode exactement l'information copiée à partir de l'ADN.
Est-ce que son rôle, c'est seulement un rôle d'inspecteur des travaux finis c'est un rôle d'ingénieur?
C'est un rôle d'ingénieur parce que non seulement il contrôle l'exactitude de ce qu'ont fait les ARN de transfert, mais il va aussi lier les acides aminés ensemble, ce qui est crucial pour faire la protéine. Il va aussi se déplacer progressivement le long de l'ARN messager pour qu'on lise l'information. En gros, il s'assure qu'on fabrique les protéines suivant l'information et il contrôle toutes les étapes du processus aboutissant à une protéine fonctionnelle.
Sans ribosome, il n'y aurait pas de vie. Donc, si je reviens au ribosome de départ, il a fallu qu'il se construise, qu'il s'assemble, qu'il se mette ensemble. Est-ce qu'il y avait une logique derrière ça ou c'est arrivé au hasard?
C'est arrivé au hasard. Il y a un petit morceau d'ARN qui s'est associé à un morceau semblable et ce petit morceau qu'on retrouve d'ailleurs dans le ribosome actuel, qu'on appelle un centre actif très important du ribosome, en fait le centre qui contrôle la liaison des acides aminés. Ce petit morceau primitif, il a été capable d'associer deux acides aminés ensemble. Puis progressivement, le fonctionnement de ce ribosome très primitif s'est amélioré avec d'autres morceaux d'ARN qui sont venus s'ajouter et plus tard des protéines qui sont venues s'ajouter. Ça a pris énormément de temps pour faire ça.
Est-ce que ça voulait dire qu'il y aurait pu y avoir des associations qui n'auraient pas marché, qui auraient été simplement éliminées au fur et à mesure?
Bien sûr, bien sûr.
Donc on pourrait donc logiquement retracer le parcours du ribosome à partir du ribosome original jusqu'à celui qu'on a aujourd'hui?
Oui, ça a été fait par un chercheur de notre département, Sergei Steinberg. En analysant la structure, en utilisant la structure, il a pu savoir comment les morceaux d'ARN ribosomique s'étaient assemblés et dans quel ordre.
Une fois qu'on sait tout ça, qu'on a trouvé la carte détaillée du ribosome, qu'on sait comment il s'est constitué sur les millions et les milliards d'années, ça donne quoi une fois qu'on sait tout ça?
Ce qui se passe dans ce type de recherche, la structure du ribosome, c'est qu'il y a un aspect pratique immédiat auquel se sont d'ailleurs déjà consacrés les trois nobelistes. C'est que le ribosome, on ne le sait pas toujours, c'est la cible de la majorité des antibiotiques utilisés en clinique. Je pense qu'il y a plus de 70% des antibiotiques utilisés en clinique ont comme cible le ribosome bactérien.
Ça veut dire que ces antibiotiques attaquent le ribosome pour annuler ses effets?
C'est ça, il se lie au ribosome et il l'empêche de fonctionner correctement.
Et la cellule meurt?
Exactement.
Bon.
Ce qui se passe aussi, vous êtes probablement au courant, c'est que les antibiotiques, c'est merveilleux, mais on les a surutilisés avec le résultat qu'on a sélectionné des bactéries qui sont maintenant résistantes aux antibiotiques utilisés en clinique. Alors, pour revenir à nos nobelistes et à l'étude du ribosome, en analysant la structure, justement chez des bactéries résistantes aux différents antibiotiques, ils ont pu comprendre, pointer du doigt là où était le problème, ce qui empêchait l'antibiotique de se lier. Et en utilisant la structure, on peut maintenant construire, ils l'ont fait, des antibiotiques modifiés qui retrouvent leur capacité d'inhiber le ribosome. Alors ça, c'est formidable.
Alors, c'était Léa Braquier-Gingras du département de biochimie de l'Université de Montréal.
Un mot en terminant, Yannick. Nos trois lauréats ont dessiné la carte du ribosome d'une bactérie. Mais pour ce qui est du ribosome de l'être humain, qui est plus gros, plus complexe, il faudra attendre encore au moins 5 ans de recherche.
Merci beaucoup, Hugues. Et là-dessus, on s'en va au petit journal de la science. Alors, la nouvelle voix que vous allez entendre, c'est celle de Nathalie Vigneault, notre nouvelle stagiaire Fernand Seguin.
La planète Saturne, qui comptait 7 anneaux, en compte maintenant 8e. Le télescope spatial de la NASA Spitzer a détecté un anneau géant qui tourne à une distance de 6 millions de kilomètres de la planète. Formé de fines particules de glace et de poussière très froides et très éloignées les unes des autres, cet anneau est presque imperceptible. Grâce à une caméra infrarouge très sensible, le télescope a détecté l'immense halo qui tourne en sens inverse et dont la bande est 80 fois plus large que l'ensemble des anneaux déjà connus. La Lune Phébé, qui orbite dans cet anneau de poussière, aurait engendré ces particules à la suite de collisions avec des comètes. Les poussières libérées auraient atteint Japet, une lune située sur une autre orbite, lui laissant une face noircie que les chercheurs tentaient d'expliquer depuis longtemps. Cette découverte importante arrive à point, car le télescope a pu observer l'anneau juste avant que ses réserves d'hélium ne s'épuisent en mai dernier. Sans liquide pour refroidir son équipement, le télescope poursuivra tout de même ses observations de l'espace, mais avec des capacités affaiblies.
La course automobile entre dans l'ère écologique. Pour la première fois, une voiture de course entièrement verte prendra le départ à l'occasion d'une épreuve du circuit européen de Formule 3 qui se déroulera le 17 octobre prochain à Brands Hatch en Grande-Bretagne. Conçue par une équipe de recherche de l'Université de Warwick, la voiture est entièrement recyclable. Elle est faite de lin tissé, de fibres de carbone recyclées, de résine recyclée et quant au volant, il a été fabriqué avec de la pulpe de carotte. Le moteur turbo utilise un biocarburant conçu à partir de chocolat et de gras animal, et les huiles qui lubrifient le moteur sont d'origine végétale. Et ce n'est pas une charrette. La voiture a une vitesse de pointe de 215 km/h avec une accélération tout à fait honorable. Elle peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes et demie. À quand la première voiture verte au Grand Prix du Canada de Formule 1 sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal?
À la fin des années 50, sur la ligne de départ pour la course vers l'espace, il n'y avait que des hommes. Pourtant, quelques années plus tôt, deux chercheurs avaient suggéré qu'il serait préférable d'y envoyer des femmes. Les arguments de William Lovelace et de Donald Flickinger étaient physiologiques et pratiques. Les femmes sont plus légères, les propulsées en orbite monopoliseraient moins de carburant et elles consommeraient moins d'oxygène. La meilleure santé cardiaque des femmes et la résistance présumée de leur système reproducteur aux radiations faisaient aussi partie des arguments invoqués pour lancer le programme WISE, Women in Space Earliest. Le programme a fait long feu, mais Lovelace a poursuivi la démarche de façon privée, en recrutant 19 femmes pour les soumettre aux mêmes tests que les candidats masculins. Résultat, 68% des femmes ont passé avec la mention « sans réserve médicale », comparé à 56% chez les hommes. Les données physiologiques des tests de Lovelace viennent d'être publiées 50 ans plus tard dans la revue Advances in Physiology.
Eh bien, à partir de demain, la ville de Québec sera l'hôte du 18e congrès biennal sur la biologie des mammifères marins de la Society for Marine Mammalogy. 1500 scientifiques de partout dans le monde en profiteront pour faire le point sur les grands enjeux qui touchent ces animaux. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, nous vous proposons un spécial dauphin en compagnie de Jean-Pierre Sylvestre, un passionné des mammifères marins. Il était dresseur de dauphins au Japon, figurez-vous. Il a parcouru les mers du monde pour étudier les mammifères marins et pour les photographier. Installé aujourd'hui à Rimouski, il vient de publier « Le grand dauphin et ses cousins », une monographie parue chez Delachaux et Niestlé. À l'invitation de Chantal Srivastava, il a fait un détour dans notre studio. Il explique tout d'abord ce qu'est un dauphin.
Les dauphins sont des cétacés à dents, dans ce qu'on appelle les odontocètes. Il faut savoir qu'il y a à peu près une 80 espèces de cétacés dans le monde. Il y a deux grands groupes, les cétacés à fanons, qu'on appelle les mysticètes, et puis les cétacés à dents, qu'on appelle les odontocètes. Les dauphins est une famille, en fin de compte. C'est une famille qu'on appelle la famille des delphinidés, qui comporte à peu près une quarantaine d'espèces, ce qui est quand même pas mal. Et ça regroupe des espèces aussi différentes que le dauphin de Commerson, qui vit, par exemple, au large de la Patagonie, qui est un dauphin d'1,50 m à même pas 2 mètres. Ça regroupe des dauphins à flanc blanc que nous avons ici au Québec. Nous en avons deux espèces de dauphins qui sont des dauphins de mer froide, très spécialisés. Puis ça regroupe aussi l'orque. L'orque est un dauphin, c'est malgré ce qu'on dit. Ouais. C'est pas une baleine, c'est un dauphin, c'est même le plus grand dauphin. C'est bon, un animal de 9 mètres à 10 mètres quand même, des animaux de 4 tonnes quand même. Mais puis il y a le grand dauphin qui est l'emblème national ou international ou populaire du dauphin et qui est l'une des 40 espèces de dauphins qui est la plus connue. C'est une espèce qui est intéressante pour tout le monde parce que c'est l'espèce que tout le monde voit. De toute façon, on les voit dans les aquariums, mais on le voit dans la nature. C'est vraiment, je vais dire que à peu près 90% 10% de mes voyages que je fais dans le monde pour travailler sur des dauphins, je l'ai vu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Alors justement, parlons-en, Jean-Pierre Sylvestre. Vous avez navigué de par le monde. Vous les avez vus, ces dauphins, à l'état sauvage, dans leur milieu naturel. Ils vivent dans des milieux, ils sont très cosmopolites, dites-vous deux, dans votre livre. Ils vivent dans des milieux fort variés.
Oui, le grand dauphin, on le trouve aussi bien en pleine mer que l'on trouve près des côtes. On peut les voir dans les rivières. Ils rentrent dans les rivières, dans les embouchures. Ils sont très spécialisés maintenant à vivre dans des zones industrielles, puisque j'en ai vu notamment au Texas, là où il y a des compagnies pétrolières, où il y a des ports. Ils vivent là où ils survivent comme ils peuvent. Ils vivent. Survivent, je ne sais pas, je ne les ai pas étudiés, mais ils ont l'air d'être bien là-dedans, puisqu'on voit que... Non, je ne dirais pas qu'ils survivent, parce que d'après les gens que j'ai côtoyés là-bas, il y a beaucoup de naissances, donc ce ne sont pas des animaux qui survivent, ils vivent, ça fait partie de leur milieu. Donc c'est des animaux qui vivent un peu partout, vraiment... On les trouve partout.
Alors, vous nous les présentez dans ce livre qui, je dois le dire, est abondamment illustré de vos photographies, quelques 120 qui nous les présentent vraiment sous toutes leurs facettes. Et ce que vous nous invitez à faire, Jean-Pierre Sylvestre, c'est emprunter divers sentiers pour mieux connaître ce grand dauphin, connaître ses cousins. La première piste que vous explorez, c'est la piste de la généalogie. La façon de les nommer, de les étudier, de les classer a évolué au fil du temps. Ils sont là aussi depuis très, très, très longtemps. Vous remontez cette piste?
Bah oui, je remonte un petit peu. Toutes les monographies, on essaye de remonter à l'origine de l'espèce. Enfin, cette espèce-là qui est une espèce qui n'est pas vieille par rapport aux cétacés, parce que les cétacés sont apparus sur Terre il y a 45 millions d'années. Ils avaient des pattes, ils avaient quatre pattes. C'est les oglodons et tout ça, là, les basilosaures. Et... Bon, ça, on a trouvé des fossiles en Afghanistan, au Pakistan, en Égypte, dans le Fayoum égyptien. Mais sinon, les espèces de dauphins qui nous restent à l'heure actuelle, ils ont un peu moins de 3 millions d'années quand même. Maintenant, ces espèces récentes, même qui sont presque, je dirais, pour un mammifère, survie de 4 millions d'années. Donc, ces espèces qui devraient disparaître, normalement. Mais bon, ça ne disparaît pas à un grand dauphin, heureusement, puisque c'est une espèce qui est assez, je veux pas dire, très spécialisée. Les dauphins sont spécialisés parce qu'ils sont quand même arrivés à un summum au niveau de l'évolution que l'on ne trouve pas dans le monde animal. Mais par contre, le grand dauphin, c'est un animal qui vit dans tous les milieux, comme j'ai dit avant. Donc, c'est un animal qui va devenir presque à la limite primitif, parce qu'il s'acclimate à tout.
Il s'acclimate à tout, et l'humain le côtoie, et l'humain l'a élevé à un statut aussi, à un rang quasi mythique.
Ouais, ça, il y a le dauphin...
Pour
le meilleur et pour le pire, ouais. Enfin, là-dessus, c'est vrai que le dauphin, tout le monde l'aime. Déjà, ce qui est un peu idiot, c'est qu'on attribue au dauphin le sourire, alors il sourit pas, c'est son expression.
C'est peut-être Flipper à la télé qui nous
a... Flipper, mais aussi, la plus grosse bêtise, c'est que le dauphin est un animal qui est très agressif. Et on note...
Dans l'image qu'on a dans la mythologie,
c'est super gentil, très gentil.
Mais moi, qui saute et qui bat de la queue.
Voilà,
bon,
moi, je me suis fait attaquer par des dauphins, je me suis fait mordre par des dauphins, j'ai eu des problèmes énorme avec ce grand dauphin, et je suis pas tout seul à avoir eu ça. Il y a des viols collectifs chez les dauphins, et les mâles coincent les femelles, et puis c'est des viols jusqu'à... Ils emprisonnent des femelles, ils se tuent entre eux, ils se bagarrent, ils ont tous des traces, donc le dauphin est beaucoup moins pacifique que ce que l'on pense. C'est un petit peu... Bon, je veux pas détruire l'image du dauphin, mais il faut qu'on arrête un petit peu là, parce que, bon, il y a, par exemple, on n'aime pas l'ours, on n'aime pas le loup, et puis, fin de compte, c'est un loup et un ours, c'est aussi gentil qu'un dauphin, à la limite.
Peut-être ce qui nous amène à voir le dauphin différemment, c'est qu'on l'a souvent aussi identifié comme étant un animal extrêmement intelligent, sensible aux émotions.
Oui. Ils sont sensibles. Les dauphins sont bien pour, par exemple, les enfants malades, les enfants qui ont des problèmes.
Les autistes, vous faites référence à des expériences qu'on a faites. On a remarqué que
les dauphins sont pas mal sensibles aux autistes. Et ça, c'est une bonne chose. Au contraire, il faut un petit peu encourager ce côté-là. Ces animaux qui sont intelligent, mais qu'est-ce que c'est l'intelligence? Parce qu'on compare l'intelligence aux humains, mais est-ce que l'homme est vraiment intelligent? Est-ce que le dauphin est vraiment intelligent? Moi, un des animaux intelligents que j'ai côtoyé est l'orque. C'est un dauphin, mais c'est le plus grand dauphin. Et je trouve que l'orque est nettement plus intelligent qu'un grand dauphin. J'ai été dresseur de dauphins, j'ai eu des orques, j'ai eu une orque à dresser. Je peux vous dire que des fois, c'est même pas... On n'apprend rien à un orque. L'orque, il comprend tout de suite. On dirait qu'il y a une espèce de télépathie. Alors que j'ai eu énormément de problèmes avec un grand dauphin. Les grands dauphins, je vois pas où est l'intelligence d'un grand dauphin. Et même des fois, il y a beaucoup de dresseurs que je connaissais qui me disaient qu'ils préféraient travailler avec une orque qu'avec un grand dauphin.
Vous faites référence au dressage, justement, et à la façon dont on a petit à petit amené les grands dauphins, plusieurs mammifères marins, à vivre en captivité. Et ça, vous êtes très, très, très... Vous condamnez cette pratique.
Ouais, c'est un peu... Je crache un petit peu sur la soupe, puisque dans les années 80, j'étais dresseur au Japon, mais c'était une année... C'était des années où les premières études de dauphins, années 70, 50, 60, 70 et 80, c'était la fin, on commençait à étudier les dauphins, les comportements de dauphins dans les aquariums, notamment au Japon, où il y avait énormément d'aquariums. Il y en a toujours beaucoup, des aquariums au Japon. Mais comme il y avait aussi une panoplie d'espèces de cétacés auxquels je pouvais avoir accès, ça m'intéressait de travailler au Japon parce qu'on avait plusieurs espèces qu'on ne trouvait nulle part en Occident. Donc, ça m'a permis de me faire quand même des connaissances sur les dauphins. Maintenant, ça, c'était les premières, parce que ça, c'était les premières études. À cette époque-là, les dauphins qui s'échouaient, on les gardait en captivité, mais on ne faisait pas trop de captures de dauphins pour les mettre en aquarium. Donc, on avait beaucoup de dauphins qui étaient capturés par les pêcheurs. Au lieu de les tuer, on les gardait en captivité. Maintenant, c'est le gros commerce. Maintenant, c'est le gros commerce. Les aquariums, ça pousse comme des champignons maintenant dans le monde, depuis à peu près une quinzaine d'années, je dirais même. Et donc, il y a des grosses demandes de dauphins, d'énormes demandes, tellement de grosses demandes.
Pour les delphinariums,
maintenant, on capture plus deux ou trois dauphins pour un aquarium, on en capture 20 pour un seul aquarium.
Mais on les met où? Parce qu'ils ont besoin d'espace et vivent,
on fait des bassins de plus en plus importants pour mettre au moins 12, 13 dauphins en même temps. C'est considérable.
Mais vous dites qu'il peut plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur, nager sur 80 km de distance. Il n'y a pas un bassin qui peut accommoder.
Il y a de plus en plus de bassins aussi grands. Les 10-20 mètres de profondeur. Maintenant, il y a des normes à respecter au niveau du bassin des orques. Maintenant, il faut que ça dépasse 7-10 mètres de profondeur au moins pour abriter une orque.
Dites-moi, Jean-Pierre Sylvestre, comment on a pu, au fil des années, apprendre à étudier, à observer les dauphins? La captivité n'est pas une solution. On a développé des méthodes, des moyens scientifiques. Il y a un art dans l'étude scientifique des dauphins. Il y a une manière de faire.
Oh, ça, c'est une vieille histoire, parce que, fin de compte, on a commencé à travailler sur les dauphins ou les baleines depuis, à partir des échouages. C'est comme ça qu'on a fait les collections dans les musées d'histoire naturelle. Après, il y a eu la chasse à la baleine, la chasse aux dauphins. Et là, on a commencé à récolter des pièces anatomiques. Après, on s'est aperçu que c'était des animaux qui étaient intelligents. Donc, on les a mis en aquarium. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, c'est pas dans les aquariums qu'on va tout apprendre. Et c'est là que c'est venu les recherches sur le terrain. Les recherches sur le terrain, ça date des années 70, quand même. On a commencé à pas mal travailler aux années 70. Ça s'est intensifié aux années 80. Puis là, maintenant, c'est devenu la norme internationale.
On fait ce qu'on appelle la photo-identification, donc des catalogues qu'on met à jour.
On fait non seulement ça, on met des émetteurs sur les dauphins pour un peu savoir à quelle profondeur ils plongent, ce qu'ils mangent. On fait des études génétiques maintenant. Ça sert énormément, les études génétiques, parce que ça nous donne des données sur les populations, sur les sous-espèces, les relations entre chaque groupe de dauphins, parce que ça s'est avéré que ça soit chez les baleines ou les dauphins, il y a une complexité dans le groupe ou dans l'organisation.
Dans le mode de communication aussi.
Oui, ils ne se comprennent pas entre eux déjà. Non seulement entre espèces, mais au sein d'une seule espèce, chaque population ne se comprenne pas. On l'a vérifié avec les orques, on le sait avec certains dauphins, les dauphins tachetés de l'Atlantique et tout ça. Vous prenez un dauphin d'un petit groupe, vous le mettez avec un autre dauphin du groupe B, de la même espèce, mais qui vit à 100 km plus loin, ils ne vont pas se comprendre.
Ils peuvent communiquer avec les humains, en tout cas c'est l'impression qu'on a, qu'ils décodent certains des signaux.
Ils peuvent se communiquer avec les humains par télépathie, peut-être. Pas par signaux, en tout cas.
Comment ils perçoivent cette détresse? Parfois, on dit qu'ils vont même aller aider, vous l'évoquez dans votre livre, venir en aide à des humains en détresse.
Ou des baleines aussi.
Des baleines. Comment ils font, alors?
Ce sont des animaux grégaires, premièrement. Alors, donc, c'est des animaux qui vivent en troupeau, qui vivent en groupe. Et qui s'entraident, ça fait partie de leur comportement, c'est ce qu'on appelle le comportement épimélétique. Donc c'est des animaux qui s'entraident entre eux, et non seulement ils s'entraident entre eux, mais aussi ils s'entraident et ils aident les autres espèces animales. Alors on connaît des cas où des dauphins sont venus au secours d'humains, de toute façon, d'humains qui ont failli se noyer, d'humains qui ont été attaqués par des requins, ça arrive, c'est pas des légendes. Aussi, on a remarqué que un point très important, c'est que dans le monde, on a quand même enregistré des dauphins Par exemple, des femelles qui ont mis au monde des mort-nés, qui sont venues voir des pêcheurs, qui ont apporté leur nouveau-né comme ça, qui les ont apportés aux pêcheurs pour que le pêcheur essaye de sauver le nouveau-né.
Dernière chose que je veux voir avec vous, et là, ça frappe vraiment l'imaginaire, mais pas dans le bon sens, les dauphins et leur utilisation par les militaires. Vous nous apprenez des choses livre, Jean-Pierre Sylvestre, qui font frémir. Des dauphins avec une baïonnette au bout du rostre pour tuer des plongeurs Vietcong durant la guerre.
Ça a été utilisé. Bon, les résultats sont pas très très positifs là-dessus là, parce qu'il pouvait tuer aussi bien des plongeurs américains que des Vietcong. Mais c'est pas ça le problème. Il y a une chose qui est, on a un petit peu abandonné les dauphins à des projets militaires. Bon, maintenant avec l'effondrement du mur côté soviétique, on s'est aperçu que les Russes utilisaient énormément les dauphins, notamment le beluga. Et actuellement, les Américains, depuis l'effondrement du mur, se sont aperçus qu'il y a un animal beaucoup plus intéressant que le dauphin pour refaire des pour être utilisé militairement, bah c'est le beluga. Et le beluga est très très résistant. Le beluga apprend beaucoup plus vite qu'un grand dauphin. Deux, il est plus résistant. Le beluga plonge à des très grandes profondeurs, allant jusqu'à 600 mètres de profondeur, ce que ne fait pas le grand dauphin. Et donc il reste un peu plus longtemps même. Et donc ça devient un animal qui intéresse la marine américaine de plus en plus.
Qu'est-ce qu'on leur fait faire?
Tout, il y a des différentes, on leur met des caméras pour aller chercher des bateaux qui sont coulés, attaquer des sous-marins, faire de l'espionnage sous-marin, on fait tout avec un dauphin.
Jean-Pierre Sylvestre, je ne vous laisse pas partir sans vous poser la question que tous les vacanciers qui vont dans les Caraïbes ou les autres contrées de villégiature se posent peut-être lorsqu'on leur propose d'aller nager avec les dauphins. Ouais. Comment on fait comme humain pour avoir un contact avec les dauphins?
Pour moi, c'est la natation avec les humains, je suis carrément contre ça. Parce que c'est les dauphins captifs. C'est les dauphins captifs. Alors, on dit que les dauphins, on ne les garde pas très longtemps en aquarium. Alors, ceux-là, on ne les garde pas très longtemps du tout, pas du tout en aquarium. Hein. Parce que tous les gens les touchent. Il y a un facteur pathogène qui rentre en cause là-dedans. Et ces dauphins, ils meurent très vite. Ils sont remplacés immédiatement. Alors, d'une part, il y a ça. Il y a cette mortalité importante de ces dauphins-là. Parce qu'on les met, des fois, il y a des propositions des dauphins qu'on met dans des piscines de grands hôtels. J'ai appris ça, mais ça, c'est un phénomène qui a une vingtaine d'années quand même. C'est pas nouveau. Hein. Moi, je condamne complètement tout ça. Par contre, je suis d'accord à amener des gens, leur montrer des baleines. Amener des gens, leur montrer des dauphins. Puis on leur explique comment vivent les dauphins, comment vivent les baleines. Les gens qui reviennent, ils savent ce que c'est une baleine. Ils savent ce que c'est un dauphin. Et je pense que là, on a tout gagné. De là à les emmener voir des dauphins en captivité ou de les faire de leur faire caresser un dauphin dans semi-captivité, ça, je suis contre ça.
Ben écoutez, donc, justement, pour mieux connaître les dauphins, peut-être se préparer à aller les voir dans leur milieu naturel, on ne peut que recommander chaudement votre livre « Le grand dauphin et ses cousins », Jean-Pierre Sylvestre, donc livre qui est publié chez Delachaux et Nicelet. Je vous remercie infiniment d'avoir fait un détour dans notre studio. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de cette édition des Années-Lumière, une émission réalisée par Dominique Lapointe, avec à la technique aujourd'hui Michel Potvin. Les journalistes Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan, Chantal Srivastava et Nathalie Vigneault, notre stagiaire Fernand Seguin. Journaliste au site internet Lily Marin, chroniqueur Marie-Dominique Beaulieu. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.